RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense et dans le cadre de l'émission Le Berry se raconte. Nous retrouvons dans notre studio M. Claude Vigoureux, directeur du service départemental de l'ONAC victime de guerre, pour nous parler d'un grand résistant au parcours riche dans sa diversité, mais exemplaire par son action. Il s'agit d'Hubert de Lagarde, né à Marmagne en 1898. Une plaque commémorative et une exposition ont été inaugurées le 18 septembre 2020 à Marmagne, justement le patronage d'Agora Défense et aussi de l'ONAC victime de guerre et la municipalité de Marmagne. Ma première question, monsieur Vigoureux, bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Excusez-moi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, naissance à Marmagne, très précisément au château de Marmagne, en 1898. Mon interview comportera trois points. Ma première question, parlez-moi du militaire Hubert de Lagarde.
Alors, le militaire Hubert de Lagarde, en fait, succède à son père, qui était aussi officier. Il y a très nettement, une vocation héritée de l'exemple paternel. Donc, c'est un parcours d'officier de l'entre-deux-guerres. N'oublions pas que c'est une génération qui a échappé,
à l'hécatombe.
Qui a échappé à l'hécatombe. Et lui, donc, va faire partie de la promotion Saint-Cyr, promotion du drapeau, 1920-1922. Ce qu'il faut tout de suite mentionner, c'est que, alors qu'il n'est pas encore officier, il va croiser un certain capitaine de Gaulle.
Lui aussi.
Qui est instructeur, donc, à Saint-Cyr. Et cette rencontre va le marquer. Va le marquer profondément, on le verra par la suite.
Oui.
Alors, il est d'abord officier de chasseur à pied. Donc durant les années 20, de 1922 à 1928. Ensuite, il va servir...
Il a participé à la Première Guerre mondiale aussi.
Oui, mais pas en tant qu'officier, engagé.
Engagé, c'est quand même assez remarquable. Hein.
C'était remarquable. Remarquable. Et il regrettait même que l'armistice soit venu mettre un terme à la guerre, puisqu'il avait vraiment envie d'en découdre.
D'accord. La fougue de la jeunesse.
La fougue de la jeunesse. Et après avoir donc servi en Syrie, en 1930, il va quitter l'armée, il va démissionner.
Ah oui ?
Pour servir autrement, pour servir avec sa plume.
Ah oui, alors, Hubert de Lagarde, écrivain.
Hubert de Lagarde, écrivain, finalement un peu à l'instar de Charles de Gaulle, qui lui aussi, dans les années 30, va publier des livres remarqués.
Oui.
Et donc, Hubert de Lagarde devient écrivain et journaliste.
Oui.
Alors, il se situe dans la mouvance, on va dire, de la presse de droite de l'époque. Il est très proche de Charles Maurras, donc, et de l'Action française. Il est le correspondant défense, on va dire, de l'Action française. Mais à l'égard donc de Maurras, il va un peu à l'image de Georges Bernanos, l'écrivain.
Oui.
Il va mener une réflexion personnelle qui va l'éloigner de Maurras parce que, comme Bernanos, il reproche à Maurras de toujours tempêter contre les Allemands, le germanisme, contre la chienlit, on va dire, politique, mais de ne jamais passer à l'action. Et lui, c'est un homme d'action. C'est un militaire, c'est un homme d'action. Un événement va le marquer beaucoup, le même d'ailleurs qui a marqué Bernanos, c'est la conquête de l'Éthiopie par l'Italie. Il trouve ça abject. Et alors, il va écrire un ouvrage qui s'appelle « Le procès de l'Italie », dans lequel il règle son compte à Mussolini. Et ce livre va le couper donc de l'Action française et d'une certaine droite nationaliste. Donc il devient un petit peu un électron libre. Et alors que littérairement, il était reconnu, il a publié un roman, Le Soupçon, qui a obtenu quand même 2 voix au prix Goncourt. Et Charles de Gaulle, devenu le colonel de Gaulle, lui a dédicacé plusieurs de ses ouvrages, les dédicaçant à un écrivain de talent.
D'accord, oui, dans une belle plume.
Une très belle plume. Et là-dessus arrive la guerre.
La guerre.
Donc il reprend du service, il rejoint le 155e régiment d'infanterie jusqu'au 8 octobre 1940. En fait, il est un officier d'état-major jusqu'à la défaite. Et puis là...
Voilà. C'est, nous devenons à Hubert de Lagarde grand résistant, et je pèse mes mots,
oui.
Et malheureusement méconnu.
Voilà, alors grand résistant parce qu'il fait partie de ces rares personnages à s'engager tout de suite. On appelle ça les primo-résistants. Il n'attend pas un mot d'ordre politique, il ne suit que sa conscience. A-t-il entendu le discours radiodiffusé général de Gaulle ? On n'en sait rien. Toujours est-il que dès la fin 1940, il rejoint l'armée secrète, mise au point par le général de Lestrin. Donc il va passer son temps, il va passer l'occupation entre le Cher, donc dans sa maison de Béribouy, à Bourges et à Paris. Et là, il passe son temps à faire de l'espionnage, à procurer de faux papiers, à faire franchir la ligne de démarcation aux personnes persécutées, en nouant des contacts. Et il va devenir, sous le nom de l'agent Villard, le chef du deuxième bureau du grand mouvement Libération Nord. Et il va créer le 1er octobre 1942 un réseau de renseignement qui s'appelle Eleuther et dont il sera le chef jusqu'à son arrestation. Imaginons quand même, ce réseau, ce n'est pas une petite affaire, c'est 419 agents immatriculés. Et vous pensez bien que durant l'occupation, faire le tour de ces réseaux, c'est particulièrement périlleux.
Oui.
Et il le fait personnellement, prenant des risques considérables. Plusieurs fois, on lui propose de l'exfiltrer vers Londres, il va toujours refuser. Il faut savoir que par ses renseignements, peu de temps avant le débarquement, il a permis donc à l'aviation alliée de détruire 1/7 des forces blindées parquées en France au camp de Mailly-le-Camp. Donc il a vraiment à son actif, si vous voulez, des faits d'armes de résistance extrêmement forts. Et il va prendre en janvier 1944, à la demande du maréchal Koenig, la direction du deuxième bureau des forces françaises de l'intérieur.
Ce qui est aussi très intéressant avec Hubert de Lagarde, c'est un des résistants qui va communiquer à Londres que s'il continue à bombarder les villes, les libérateurs vont pas du tout être accueillis comme libérateurs.
Tout à fait. Il constate que les bombardements à mauvais escient sur les sites civils ont un effet très mauvais auprès des populations et ce qui sert aussi la propagande de Vichy.
Malheureusement, il est arrêté.
Il est arrêté. Depuis plusieurs semaines, il était particulièrement surveillé de près. Arrêté par la Gestapo le 15 août 1944, torturé à plusieurs reprises à Paris, et il est déporté par le dernier convoi de déportés politiques en partant de Paris, d'abord à Buchenwald, puis au camp de Dora et affecté au commando d'Elrich. Et on sait que, début janvier 1945, il était extrêmement faible, le médecin du camp, qui n'était médecin qu'en titre parce qu'il n'avait pas de médicaments pour soigner personne. Lagarde avait été amené au Révire, qui était l'infirmerie du camp, où on laissait mourir les gens sans rien pouvoir faire d'autre que les consoler si on pouvait. Il dit, au moment de mourir, Hubert de Lagarde a demandé où en était l'avance des Alliés. Son visage s'est éclairé quand il a su que la France était en grande partie libérée, et il a dit, en somme, les nouvelles sont bonnes.
Donc Hubert de Lagarde, grand résistant. Il y a un certain nombre de témoignages qui me paraissent importants de lire. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples ?
Oui, c'est important parce que si c'est un nom aujourd'hui qu'on connaît peu, sur le moment, il a été salué, ce nom, par des personnalités éminentes. On peut commencer par le général Koenig, commandant les forces françaises de l'intérieur, qui rappelait que par l'énergique impulsion, Hubert de Lagarde a obtenu de ses agents un travail qualitatif et quantitatif important. On peut aussi lire la citation rédigée par le gouvernement provisoire de la République en 1945 et disant de Bonneval qu'il avait fourni des travaux remarquables aboutissant entre autres à la destruction de la quasi-totalité de la division SS Hohenstaufen en mai 1944 à Mailly-le-Camp. Torturé par la Gestapo, condamné à mort par contumace par les tribunaux militaires allemands, il a poursuivi au milieu des pires difficultés son travail avec une énergie indomptable et un mépris total du danger, acceptant notamment de hautes fonctions qui le désignaient tout particulièrement au coup de l'ennemi, auquel il a tenu tête au cours d'un combat obscur et acharné pendant de nombreux mois, réussissant même à faire assurer par son service la mise en sécurité d'une partie des membres de la famille du président du gouvernement provisoire, donc la famille de Gaulle, à une époque extrêmement dure. Peut-être compté comme un des plus purs artisans du succès des débarquements alliés en France et de la libération du territoire national.
Assez remarquable. Des témoignages très très importants.
Et le colonel Duc Dauphin, qui était un de ses collaborateurs, secrétaire général du mouvement Libération Nord, a dit de lui, il laisse le souvenir d'un homme qui par-dessus tout aimait son pays et qui, en s'engageant dans la lutte clandestine, lui avait dès le départ sacrifié sa vie. Enfin, le président de l'Amicale du réseau Éleuthère témoignera en 1965, au moment où une plaque a été inaugurée à Paris,
oui,
sur son ancien logement. Il l'a dit de son chef, « Hubert de Lagarde a eu le don de rassembler ceux qui voulaient combattre. Quand on lui conseillait la prudence, il répondait « Est-ce que dans un combat, quand on a un camarade tué à ses côtés, on doit fuir ou faire face ?» Donc, on voit bien qu'il était important que aussi au niveau du Cher, un hommage puisse lui être rendu,
oui, oui.
Comme cela a été le cas à Marmagne récemment, avec le concours de la municipalité et d'Agora Défense. Cela s'imposait, il fallait qu'il y ait un pendant, oui, à cet hommage officiel, rendu en 1965, donc il y a bien longtemps, dans la capitale.
Merci. Un merci pour ce récit de ce grand résistant Hubert de Lagarde. Merci fidèle auditeur, auditrice pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'histoire militaire du Cher et du Berry sous le patronage d'Agora Défense dans le cadre de l'émission Le Berry se raconte et bonne semaine.